Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et une partie de la libre antenne sera évidemment consacrée aux huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les supporters se mobilisent au standard d'appel sur l'actualité. Vous nous appelez de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Guinée, des réactions du Sénégal. Vous êtes très peu à nous appeler du Bénin. Pourtant, le Bénin joue tout à l'heure, si je ne m'abuse, cet après-midi à 16h temps universel, ce match de huitièmes de finale. Donc, si vous êtes à Cotonou, appelez-nous, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes à quelques heures de cette rencontre. D'autres sujets évidemment vous ont interpellé cette semaine. On parlera de la contestation des résultats de l'élection présidentielle de Mauritanie, mais d'abord la Guinée. La Guinée et ce projet de révision constitutionnelle. Lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a, je cite, pris acte de la volonté exprimée par la totalité des membres du gouvernement de s'inscrire résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution. Autrement dit, la question n'est plus de savoir si le président Alpha Condé va réviser la constitution, mais plutôt quand. Bonjour Alimou.
Bonjour Juan.
Vous êtes vent debout comme la majorité des partis de l'opposition. Pour vous, il n'y a pas de doute. Si le président Alpha Condé veut modifier la constitution, c'est pour briguer un troisième mandat.
Absolument, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Vous savez que Alpha Condé, la Constitution lui a permis de faire deux mandats. Il a fait ses deux mandats. Aujourd'hui, il veut remplacer la Constitution, c'est-à-dire soumettre une nouvelle Constitution pour remettre les compteurs à zéro et ensuite briguer un autre mandat que nous appelons troisième mandat. Donc, il fait l'objet de conduite parce que depuis très longtemps, ces affidés sont sur le terrain, les ministres, tout le monde, et récemment, les ambassadeurs sont mis en contribution pour essayer de vendre cette proposition, cette nouvelle constitution.
Oui. Alors, vous parlez des ambassadeurs, puisqu'effectivement, il y a un document du ministère des Affaires étrangères qui circule sur les réseaux sociaux, document qui a été d'ailleurs certifié, authentifié. Et cette note invite les ambassadeurs de Guinée à travers le monde à faire la promotion de la nouvelle constitution. Je ne sais pas, vous avez eu l'occasion de la lire, cette note, ou pas, Alimou?
Oui, je l'ai lu un peu, je l'ai parcouru, mais cette note donne un argumentaire aux ambassades pour aller envers les pays où ils sont accrédités pour essayer de vendre, pour essayer de motiver.
Alors moi je l'ai lu, excusez-moi Alimou, moi je l'ai lu cette note, hein, elle est disponible sur les réseaux sociaux, elle fait 12 pages, c'est un peu long, faut prendre le temps évidemment, mais excusez-moi, à aucun moment la note ne fait référence à une éventuelle candidature à un troisième mandat d'Alpha Condé. La note dit: on ne peut pas empêcher le peuple d'avoir envie de changer sa constitution. Le président est en droit de proposer une nouvelle constitution pour la soumettre au référendum. On lit également que l'actuelle constitution manque de légitimité puisque elle a été adoptée, rappelez-vous, en 2010 par un conseil de transition. Les membres à l'époque de ce conseil n'avaient pas été élus. Voilà les éléments de langage que l'on retrouve dans cette note pour les ambassadeurs de Guinée à travers le monde. Mais à aucun moment il n'est question un troisième mandat.
Écoutez, le troisième mandat, Alpha Condé lui-même l'a dit, il a donné une interview il y a quelques mois à vos confrères sénégalais où il dit, s'il y a une nouvelle constitution, il y aura troisième mandat. C'est lui-même qui l'a dit, c'est noir sur blanc. Donc il n'y a pas, c'est sûr, il l'a dit.
Bon, bah écoutez, j'apprends quelque chose. Je suis de près ce sujet, puisque vous nous interpellez, quand je dis vous, c'est les auditeurs guinéens, régulièrement sur ce projet de révision constitutionnelle. Et jusqu'à présent, pour en toute honnêteté, le président de la République botte en touche. Il dit, si le peuple réclame une nouvelle constitution, à ce moment-là, le peuple aura le dernier mot. Mais il n'a jamais parlé d'un troisième mandat. Restez en ligne, Alimou. La conversation est passionnante, évidemment. Je voudrais qu'on accueille Lamine. Bonjour.
Oui, bonjour, André.
Vous êtes à Conakry également. Vous partagez l'analyse d'Alimou ou vous faites partie de ceux qui estiment que, oui, il est temps de changer de constitution?
Oui, merci, Juan. Je suis très content de votre intervention tout de suite pour vous dire qu'Alim ne connaît même pas ce qui se passe dans son pays parce qu'il ne lit même pas les documents. Les gens sont en train de faire des débats avec passion. Ils n'ont qu'à se calmer. Cette constitution doit être révisée. Il doit y avoir une nouvelle constitution. Pour des raisons simples. Premièrement, il y a plein d'articles transitoires dans cette constitution. Deuxièmement, il y a beaucoup d'institutions prévues dans cette constitution qui sont très coûteuses pour le pays. C'est un pays pauvre. Nous sommes en train d'orienter toutes les ressources du pays sur les interventions communautaires pour un développement à la base. Et une nouvelle constitution ne veut pas forcément dire troisième mandat. Enfin, voilà les réinterventions.
Mais bien sûr, mais j'entends la mine, j'entends vos arguments, mais en même temps, personne n'est dupe. Pourquoi modifier une constitution à un an de l'élection présidentielle? Si cette constitution finalement est si mauvaise, pourquoi ne pas l'avoir modifiée il y a 5 ans, il y a 6 ans?
Oui, la mine, le problème de la Guinée, c'est que dès que le président est venu au pouvoir, et il a fait les deux premières années, et après il y a Ebola qui est arrivé, et puis il y a des contestations dans toutes les rues de Conakry. Aucun programme de développement n'a pu démarrer. Voilà un peu, on se mettait encore dans cette nouvelle, dans la proposition d'une nouvelle constitution, il n'aurait pas de résultat, parce que c'est que les gens oublient, il faut qu'un président présente le résultat au peuple pour pouvoir être réélu. Il peut se présenter quand il veut, mais c'est les résultats qui doivent le faire réélire normalement.
Donc,
les gens sont passionnés dans ce débat.
Bien sûr que les gens sont passionnés. Je m'en rends compte à chaque fois que nous lançons le débat sur le projet de révision constitutionnelle. Et on le constate évidemment ce matin, comme à chaque fois, avec nos auditeurs guinéens. Alimou, vous avez peut-être envie de répondre à la mine rapidement?
Absolument, c'est des faux arguments qu'ils avancent. C'est-à-dire, si on veut modifier la Constitution, la loi l'autorise. Ils peuvent introduire une proposition de modification de la Constitution à l'Assemblée, mais afin qu'on est convaincu qu'à l'Assemblée, il n'a pas la majorité qualifiée des 2/3 pour changer la Constitution. Donc c'est pourquoi il veut contourner cela en proposant une nouvelle Constitution.
Oui.
On dit proposer une nouvelle constitution. C'est ce qui se passe comme problème.
J'entends. Le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion d'y revenir, c'est promis. Bonne journée, Lamine. Merci également à Limou qui nous appelait de Conakry. 33 9 693 693 70. Bonjour, Josué.
Oui, bonjour, Johan.
Vous êtes à Berlin et vous nous interpellez, vous, sur le choix d'Ursula von der Leyen au poste de présidente de la Commission de l'Union européenne.
Oui. Madame Ursula von der Leyen, médecin de profession avec thèse de l'École supérieure de médecine de la ville d'Hanovre, est un mouchoir rouge pour le coalitionnaire de Madame Merkel au gouvernement, les sociaux-démocrates, et pour l'opposition, pour des multiples raisons, dont je vais citer deux.
C'est-à-dire que, pour résumer un peu, Josué, ceux qui ne suivent pas la politique intérieure allemande, le choix d'Ursula von der Leyen provoque la colère au sein des sociaux-démocrates, au sein des Verts. Ils n'acceptent pas cette nomination. Vous les comprenez, vous ?
Oui, on peut bien le comprendre, parce que Madame Ursula von der Leyen est une fille à papa dont les bilans au sein du gouvernement est sévèrement critiqué par les partenaires des chrétiens démocrates et l'opposition, et que sa biographie n'est pas du tout reluisante parce qu'elle avait été mise en accusation pour avoir plagié sa thèse de doctorat qu'il avait présentée à l'École supérieure de médecine d'Hanovre.
Oui, c'est vrai qu'elle a été accusée d'avoir plagié des passages de sa thèse, mais finalement, si ma mémoire est bonne, je crois qu'au final, l'université de Hanovre ne lui a pas retiré le titre de docteur.
Justement, c'est ce qui est paradoxal, parce que 75% de sa thèse avait été plagiée.
75%,
Et du fait que Madame Ursula von der Leyen et la fille de M. Albrecht, qui était dizaines d'années ministre-président de la Bade-Saxe, les autorités académiques sont tellement conservatrices parce que les universités de Düsseldorf ou bien de Bayreuth ou bien de Bonn ou bien d'Hambourg qui ont eu
Bon, d'accord, d'accord. Citez pas toutes les universités allemandes, hein, sinon on est encore là cet après-midi. Enfin, on va pas résumer, excusez-moi, la carrière d'Ursula von der Leyen à ce plagiat. Je ne la connaissais pas, pour être très honnête avec vous, avant sa nomination en début de semaine, mais on regarde le CV, il est quand même impressionnant. Elle est là depuis qu'Angela Merkel, elle est au gouvernement depuis qu'Angela Merkel est au pouvoir. C'est la plus ancienne des ministres, elle a été ministre de la famille, du travail, ministre de la défense. Certes, elle est impopulaire en Allemagne, mais elle a fait quand même des choses qui sont à souligner quand elle a décidé de multiplier le nombre de place en crèche, alors que le reste de son parti ne le voulait pas. Elle a eu le courage. Elle a eu le courage également de vouloir imposer des quotas de femmes à la direction des grandes entreprises, alors que son parti était plutôt réfractaire à cette idée. Elle a réclamé l'instauration d'un salaire minimum en Allemagne. Là aussi, ce sont quand même des actions courageuses.
Oui, mais ce sont des actions courageuses sans l'aval de la base de son parti qui est conservateur. Donc on ne peut pas engager une action si on n'est pas assuré que la base, la direction du parti le fera.
Oui. C'est vrai qu'elle a, elle a toujours été un peu à contre-courant de son parti, à contre-courant d'Angela Merkel, mais allez comprendre pourquoi Angela Merkel l'a gardée au gouvernement. Hein. Elle est là depuis 2005, depuis qu'Angela Merkel est au pouvoir. Bon, la conversation est intéressante, mais le temps passe très très vite, la libre antenne ne fait que 20 minutes. En tout cas, merci infiniment de nous écouter à Berlin et de nous avoir interpellés donc sur Ursula von der Leyen. D'autres sujets vous ont retenu, ont retenu votre attention, on va mettre les mots dans l'ordre. Il y a Serge, par exemple, qui souhaite revenir sur la première manifestation interdite depuis l'élection du président Tshisekedi, c'est en République démocratique du Congo. Bonjour Serge.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci Juan. Oui, en fait, la manifestation... Moi, je voudrais revenir sur la manifestation de l'opposition qui a été interdite à Kinshasa. En fait, ce que les gens comprennent que dans une république, l'État a l'obligation de protéger les populations et leurs biens. Donc, l'État peut décider d'une opportunité, d'une marche ou pas, tant qu'elle trouve qu'elle n'est pas en mesure de protéger les autres populations ou même les marcheurs qui vont marcher.
Quoi. Et là, vous avez vraiment l'impression que les autorités n'étaient pas en mesure de protéger les manifestants, d'où l'interdiction de cette marche le 30 juin, dimanche dernier.
Non, mais d'être en mesure de protéger les manifestations, la population qui allait manifester, mais c'est également le symbole de cette date du 30 juin. Donc l'État a décidé que cette date du 30 juin ne pouvait pas souffrir de ce genre de manifestation par rapport à ce que cette date représente pour le peuple congolais.
C'est l'anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, je le dis pour tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire de votre pays.
Voilà, exactement. Et qu'un groupe d'individus comme ça descend dans la rue pour essayer de perturber cette date qui était alors retenue pour être célébrée dans la méditation. Voilà, l'État a le plein pouvoir de dire non à ce genre d'agissement.
Oui, vous dites groupe d'individus, en même temps il s'agissait de la principale coalition de l'opposition, la Mouka.
Oui, mais ça reste un groupe d'individus.
Oui, non, mais d'accord, mais...
C'est un groupe d'individus.
D'accord, mais il s'agissait tout de même de la principale coalition de l'opposition qui voulait profiter de cette date évidemment symbolique pour manifester, pour continuer à dénoncer l'élection de Félix Tshisekedi et pour dénoncer notamment le fait que plusieurs de leurs députés aient vu leur élection contestée par la Cour constitutionnelle. En tout cas, pour vous, le gouvernement a bien fait d'interdire cette marche et le gouvernement a bien fait, on va dire, d'avoir dispersé ceux qui tentaient, coûte que coûte, de marcher dans les rues de Kinshasa.
Oui, mais écoutez, Juan, je n'en dis qu'on vient pas, il voulait manifester, c'est le principal groupe d'opposition et tout ça, mais il faut quand même signaler que c'est depuis que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir, la Mouka a fait toutes ses manifestations, M. Fayoulou a fait sa tournée, il a dansé partout. sans problème.
Oui.
Vous voyez un
effectivement,
peu.
Non, mais c'est effectivement, et d'ailleurs, le président Tshisekedi, dans un entretien accordé à RFI, à nos confrères de France 24, a dit qu'il ne fallait pas confondre démocratie et anarchie. Jusqu'à présent, il n'avait jamais interdit une marche, mais quand il s'agit d'anarchie, il faisait référence au débordement survenu quelques jours plus tôt à Kinshasa pour accueillir notamment Jean-Pierre Bemba. Voilà, il trouvait plus judicieux d'interdire cette marche. Merci Serge, bonne journée à Kinshasa. On a pris beaucoup de temps et malheureusement il nous reste 5 minutes. 5 minutes, allez, pour prendre quoi, des dizaines d'auditeurs pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations. On va en prendre au moins un ou deux. La Coupe d'Afrique des Nations, coup d'envoi des huitièmes de finale cet après-midi à 16h. Ce sera Maroc-Bénin, à suivre évidemment en direct sur RFI, tout comme Ouganda-Sénégal à 19h TU. Ibrahima, bonjour. Allô Ibrahima, êtes-vous là, supporter des Lions de la Teranga? Ibrahima n'est pas là. Bon, on va peut-être prendre un autre auditeur. Qui avons-nous au standard? Peut-être Émile. Émile, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Supporter des Écureuils. Les Écureuils qui jouent donc à 16h face au Ghana. Vous déjà, vous êtes très heureux. Vous êtes très heureux. Vous dites que si le Bénin est en huitième, c'est déjà formidable.
Oui, tout à fait. Le Bénin est déjà en huitième. Je pense qu'on est heureux. Ce qui nous reste, c'est nous, on n'a pas la pression. Donc, on a juste à prendre du plaisir et à jouer au foot. Donc, si les circonstances nous permettent, on passera au quart. Donc, je pense que c'est le Maroc qui doit avoir la pression de gagner. Nous, on
Les Maroc, en même temps, sont les favoris de ce match et les favoris de la compétition.
Tout à fait. C'est pour ça que nous, on n'a pas à avoir peur. Et on va juste prendre du plaisir et jouer au foot. Et comme on le dit au pays, si un lion se promène dans la classe, l'écureuil va s'en occuper rapidement.
Mmh. Oui. En tout cas, sur le papier, ce huitième de finale est quand même assez déséquilibré. Bénin, pour la première fois de son histoire en huitième de finale, avec l'absence tout de même de Steve Mounier.
Oui, c'est comme on le sait, c'est un groupe qui est solidaire. Et je pense que Michel Dussier, l'entraîneur, sera celui qu'il faut mettre à sa place pour qu'on puisse jouer du beau football. Il y a Poté qui est là et il y a encore d'autres jeunes.
Oui.
Donc je pense que nous, on n'a pas de souci à se faire. C'est un groupe un peu homogène. Donc on essaiera de jouer à notre football et prendre du plaisir face aux favoris.
En tout cas, j'écoutais ce matin le reportage à Cotonou de Jean-Luc Aplogan, notre correspondant. On voit bien que tout le pays est mobilisé derrière les écureuils du Bénin. Donc, match à suivre tout à l'heure à 16h TU, 17h heure de Cotonou, l'équipe nationale du Bénin, face au Maroc. Ibrahima, êtes-vous là?
Oui, bonjour, monsieur Juan.
Ah, ravi.
Et bonjour toute l'équipe de l'RFI.
Merci, vous êtes à Dakar au Sénégal. Merci de saluer les techniciens également. Vous êtes à Dakar au Sénégal, vous allez évidemment, comme la majorité des Sénégalais, suivre.
Je suis à Ndjégué, une localité qui se situe dans la localité de Thiès, commune de Gandar.
Ah d'accord, vous n'êtes pas à Dakar, vous êtes à Thiès. Il nous reste 2 minutes, qu'avez-vous envie de dire sur votre équipe sénégalaise?
D'abord, permettez-moi de féliciter les Lions de la Teranga qui ont validé le ticket de qualification en 8e de finale, même si c'est sous l'angoisse névrotique des Sénégalais depuis leur défaite contre l'Algérie, et de leur souhaiter une bonne chance.
Bonne chance, voilà, bonne chance aux Lions de la Teranga. Vous êtes plutôt confiant, est-ce que vous êtes content du parcours des Lions jusqu'à présent? Parce que oui, ils sont en huitième, mais certains critiquent les choix du sélectionneur Aliou Cissé. Est-ce que vous les comprenez, ces critiques? Est-ce que vous les partagez? Allô.
Merci beaucoup, Juan. Malgré on est qualifié en huitième de finale, mais j'ai toujours, d'après ce que j'ai observé durant toutes nos 3 dernières rencontres pendant le premier tour, je vous l'avais dit et je vous le répète, on a de très bons joueurs, mais malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas eu.
Mmh. Bon, Ibrahima, on a des petits problèmes de réseau téléphone. Pour être honnête, ça nous arrange. On arrive à la fin de l'émission, donc on n'aurait pas pu vous garder plus longtemps. Merci beaucoup, Ibrahima, et on aura l'occasion mardi, de dresser encore un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations, puisque nous connaîtrons l'affiche des quarts de finale, les huitièmes de finale. En tout cas, c'est à suivre à la radio, mais aussi sur nos live blogs et sur les sites et applications RFI. Lundi, on parlera de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale.
C'était Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence.